Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débat, mais aussi d'opinion avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud, tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, un mort, un blessé grave après un accident ce matin sur l'autoroute A43. Les deux victimes sont des agents autoroutiers. Dans ce journal également, la première sortie d'Emmanuel Macron réélu. Et puis ce vent de panique chez les allergiques après la décision du gouvernement. Il autorise les industriels à remplacer l'huile de tournesol, dont on manque, vous le savez, par d'autres huiles.
Nos deux focus. D'abord, un témoignage rare, exclusif. RTL a rencontré l'un des membres de la mythique Bac Nord. Il raconte son quotidien, la guerre des stupes, les prises à partie aussi quasi quotidiennes. Et à 12h50, la Russie qui coupe le gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Faut-il s'inquiéter ici en France? Quelles conséquences?
Notre question du jour sur RTL.fr. Avez-vous déjà travaillé en horaire décalé? Ça concerne un Français sur trois, nous dit l'INED. Et la tendance est encore plus forte, regardez, chez les auditeurs d'RTL, puisque vous dites oui à 58%. La météo, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Et c'est du soleil pour tout le monde, ou presque.
Oui, ou presque, en effet, parce que c'est vrai que sur un petit quart sud-ouest, les nuages remontent cet après-midi avec des averses, voire des orages au sud de la Garonne, mais partout ailleurs. C'est du beau temps, avec des températures en hausse par rapport à hier, ce qui fera du bien, parce que c'était un peu frais par endroit. Mis à part un petit 13 à Cherbourg, il fera 17 à Lille, 19 à Paris, 21 à Lyon et Bordeaux, 22 à Montpellier, 23 à Montauban.
Merci beaucoup. Coucou Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et d'abord donc le personnel des autoroutes à nouveau endeuillé. Une voiture a percuté ce matin un chantier sur l'autoroute A43 entre Chambéry et Lyon. Le bilan est lourd, Frédéric Perruche, un mort et un blessé grave.
Oui, et selon les premières constatations des gendarmes, vers 5h30 ce matin, l'automobiliste allemand de 62 ans qui conduisait une fourgonnette n'aurait pas vu cette zone de chantier et le basculement des trois voies sens Chambéry-Lyon sur l'autre portion de l'autoroute. Sans freiner, aucune trace relevée sur la chaussée. Il a donc foncé contre le rail métallique de sécurité amovible, installé provisoirement pour les travaux nocturnes. Et c'est ce rail qui a violemment percuté les trois agents. L'un d'entre eux, 54 ans, est mort. Un autre est sérieusement blessé, héliporté vers un hôpital lyonnais souffrant d'un traumatisme sévère, selon la direction de la société d'autoroute AREA. Le responsable de l'accident, indemne, a été testé positif lors du dépistage de drogue. Un laboratoire devra le confirmer. Il est actuellement en garde à vue pour tenter d'expliquer les circonstances de ce drame.
Frédéric Perruche, le correspondant de RTL dans la région de Lyon, en cette période de vacances, plus que jamais, soyez prudents. Le personnel autoroutier est en effet victime d'accidents tous les trois jours, le plus souvent matériel, mais déjà deux morts depuis le début de l'année. Yannick Monet est patrouilleur et secrétaire général du syndicat national autonome des autoroutes.
On a eu un drame avec un collègue malheureusement qui est mort il y a pas trois semaines sur ASF. Il était en protection d'une intervention et un poids lourd a percuté ce fourgon. C'est malheureusement quotidien. Nous sommes à 42 accidents matériels et corporels depuis le début de l'année, depuis 2022. C'est des chiffres qu'on a quasiment tous les ans parce que il y a de l'énervement, on veut aller de plus en plus vite, on regarde pas. Il y a malheureusement tout ce qui perturbe la conduite. Hein. C'est pas rare de voir des personnes faire des écarts sur la route parce qu'elles sont concentrées sur leur téléphone, au lieu de regarder droit devant elle. Alors des fois, ça passe, il y a un coup de frein, on embarque quelques plots, et puis des fois, malheureusement, ça passe pas, et nous, on paye le lourd tribut face à ça.
L'appel des personnels autoroutiers au micro RTL de Gauthier de Lombugard.
Autre image du jour, c'est cette première sortie d'Emmanuel Macron réélu.
Le président a choisi Cergy dans le Val d'Oise, une commune où il a recueilli plus de 76% des voix dimanche et où Jean-Luc Mélenchon était arrivé très largement en tête au premier tour. Vincent Derosier, bonjour, vous êtes sur place pour RTL.
Bonjour.
Le message du président est clair.
Oui, je suis le président de tous les Français, le voilà le message. Et Emmanuel Macron, eh bien, s'est rendu compte tout de suite qu'il n'avait pas que des fans ici. Il y a une cohue indescriptible sur le marché. Le chef de l'État a été accueilli par un drôle de mélange, des applaudissements, mais aussi des sifflets. Une partie de la foule a même scandé des Macron démission. Mais pas de quoi perturber le président qui a promis de continuer à labourer le terrain, même dans des territoires hostiles.
Les engagements que j'ai pris n'étaient pas simplement des engagements de campagne. C'est une ville qui, justement, concentre beaucoup de difficultés économiques, sociales, sécuritaires, qui est aussi une ville jeune, et donc aux côtés de laquelle nous continuerons d'agir.
Est-ce que vous allez continuer à aller sur le terrain?
Oui, bien sûr.
Les gens jusqu'aux législatives.
Et même au-delà, je vais continuer sur le terrain pour d'abord écouter, convaincre et puis agir.
Voilà, écouter, convaincre, agir. Pour l'instant, Emmanuel Macron écoute surtout. Et l'Élysée promet que le début de ce nouveau quinquennat sera essentiellement consacré à la thématique du pouvoir d'achat.
Vincent Desrosiers en direct de Cergy dans le Val-d'Oise pour RTL. Cet après-midi, Emmanuel Macron présidera l'hommage à Michel Bouquet, décédé le 13 avril dernier. Hommage national aux Invalides, au cours duquel Fabrice Lucchini, Pierre Arditi et Muriel Robin prendront la parole. Au même moment, ou presque, cette réunion à gauche, la France Insoumise et le Parti Socialiste autour d'une même table. Valentin Boisset, il est bien sûr question d'une éventuelle alliance pour les législatives.
Absolument, Amandine. Et d'ailleurs, on annonce un peu la couleur ici, sur la porte du siège des Insoumis. Il y a une petite affiche avec marqué Matignon. Voilà. Alors, plus sérieusement, les négociations ont duré plus longtemps que prévu, plus de 2h30. L'objectif, c'est de trouver une alliance. On nous parle d'une discussion sérieuse qui se déroule bien, essentiellement axée sur un programme commun, pas vraiment de partage de circonscriptions, mais les discussions avancent bien, selon nos informations. Voilà peut-être une union qui se dessine ici entre deux gauches qui ne se parlaient plus vraiment. D'ailleurs, certains au Parti Socialiste désapprouvent. Hier soir, Olivier Faure lui-même, en bureau national du Parti Socialiste, les a tout simplement invités à quitter le parti s'ils n'étaient pas d'accord avec cette alliance.
Valentin Boisset au siège de la France Insoumise pour RTL.
La guerre en Ukraine et la Russie annoncent avoir suspendu ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie.
Bonjour Julien Fautra.
Bonjour.
Pourquoi ces deux pays ?
Eh bien officiellement parce que la Pologne et la Bulgarie ont refusé de payer leurs importations gazières en roubles. C'est une nouvelle clause imposée par le Kremlin, officiellement, j'ai bien dit, parce qu'en réalité, la Pologne, elle livre des armes à l'Ukraine. Les livraisons d'armes de tous les pays transitent même par son territoire. La Bulgarie, elle, si elle ne livre pas d'armes directement à l'Ukraine, fabrique des armes, en fabrique beaucoup, et elle en vend aux pays de l'Union européenne qui, eux, livrent à l'Ukraine. On pense surtout aux MiG-29 des avions que réclame Kiev, car les militaires ukrainiens savent déjà les piloter. La ministre polonaise du climat promet qu'il n'y aura pas de pénurie de gaz dans les foyers polonais. Le gouvernement bulgare ne prévoit pas à ce stade de mesures de restriction de consommation. S'attaquer à la Pologne et à la Bulgarie, c'est aussi une façon de dire aux autres pays de l'Union européenne que la Russie peut mettre sa menace à exécution. Un avertissement à la France, mais surtout à l'Allemagne, plus dépendante encore du gaz russe.
Julien Fautra du service étranger de RTL.
Le reste de l'Europe doit-il s'inquiéter ? Quelles conséquences pour nous ici en France ? On en débattra à 12h50.
Autre conséquence de cette guerre, les difficultés d'approvisionnement en huile de tournesol. L'Ukraine, vous le savez, est le premier producteur, premier exportateur mondial aussi. Le gouvernement français a hier donné son feu vert aux industriels qui souhaitent la remplacer. Les fabricants de chips, de biscuits ou encore de plats préparés pourront utiliser de l'huile de colza, par exemple, sans pour autant changer leur emballage. Voilà qui inquiète un certain nombre d'allergiques, comme Guillaume.
Je suis allergique aux œufs, aux arachides, au seigle, à la noisette, et je ne peux pas me permettre d'ingérer le moindre ingrédient auquel je serai allergique. Je ne peux pas me permettre de louper un changement de composition. C'est assez anxiogène, parce que si jamais l'étiquetage ne suit pas, ça veut dire qu'à chaque fois que je mange un aliment, je risque de faire un choc anaphylactique.
Voilà, pas de changement d'emballage, mais les fabricants devront imposer un autocollant pour prévenir. L'Association française pour la prévention des allergies se veut rassurante.
Tout packaging qui sera modifié avec un allergène, comme l'arachide, le soja effectivement, sera obligatoirement étiqueté immédiatement. Les industriels n'auront pas le délai de 2 mois pour apposer ce sticker sur le packaging. Cette information sera apposée sur la face avant du packaging ou à côté de la liste des ingrédients. Mais vraiment, quand il s'agira d'un allergène, vraiment l'information sera claire et visible, comme l'exige la réglementation.
Pascale Couratier, la directrice de l'Association française pour la prévention des allergies, propos recueillis pour RTL par Agathe Landais. Et puis dans ce contexte, voilà une série de disparitions qui intriguent. Au moins 6 suicides parmi les oligarques russes depuis la fin du mois de février. Forcément, ça interpelle, d'autant qu'à chaque fois, Sophie Jousselin, le scénario est le même.
Oui, on les a retrouvés dans leurs luxueux appartements ou villas, à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, mais aussi en Espagne ou au Royaume-Uni. Et dans la moitié des cas, leurs femmes et leurs enfants étaient morts. À côté de Sergueï Protosenia, par exemple, a été retrouvé en Andalousie, pendu, sa femme et sa fille tuées à coups de couteau et de hache. Le scénario laisse penser à chaque fois à un meurtre suivi du suicide du milliardaire. milliardaires. Autre étrangeté, ces oligarques travaillaient ou avaient travaillé dans le secteur de l'énergie. Parmi les victimes, on trouve deux hauts dirigeants du géant gazier Gazprom. Tous étaient à la tête d'entreprises lourdement touchées par les sanctions occidentales. Facile alors d'expliquer leur geste, un suicide lié à la perte de leur fortune. Mais ces morts d'oligarques interrogent aussi sur de possibles crimes maquillés en suicide, même s'ils ne s'étaient pas ouvertement opposés à la guerre en Ukraine. Ces oligarques n'ont peut-être pas suffisamment soutenu le Kremlin dans son offensive. Au début du conflit, Vladimir Poutine avait ouvertement critiqué certains milliardaires installés à l'étranger. Beaucoup de ces personnes sont mentalement là-bas et pas ici, avec notre peuple, avait déclaré le maître du Kremlin.
Explication signée Sophie Jousselin.
Dans l'affaire Jubilar, peut-être un nouveau rebondissement.
On vous en parlait dès ce matin sur RTL. Les résultats de l'expertise menée sur les lunettes de Delphine Jubilar, elles ont été cassées sous l'influence d'une force extérieure. Voilà ce que dit le rapport versé au dossier au tout début du mois d'avril. Impossible de les utiliser dans cet état. Faux, répond Maître Emmanuel Franck, l'avocate de Cédric Jubilar.
Cette expertise des lunettes ne démontre absolument rien dans la mesure où nous savons dans le dossier, au travers de plusieurs témoignages, des collègues de travail, de l'enfant du couple, également de Cédric Jubilar, que en réalité ces lunettes étaient cassées depuis de nombreuses semaines avant la disparition. Donc à partir de là, dès lors que l'on sait que ça n'est pas contemporain du soir de la disparition, c'est une expertise qui n'apporte rien et dont il est faux de déduire qu'elle pourrait être la démonstration de ce qu'il y aurait eu une violente dispute le soir des faits.
L'avocat de la famille de Delphine Jubilar en est lui convaincu. Ce nouvel élément vient bien confirmer l'hypothèse d'une violente bagarre.
On sait qu'elle était effectivement un peu fragilisée, mais l'expertise dissipe tout doute sur une usure naturelle. Quand les experts nous parlent d'une force dynamique extérieure, on sait, pour le dire dans un langage plus commun, que c'est dû à un coup et à de la violence. Et donc, on sait qu'une dispute a éclaté ce soir-là au sein du domicile familial qui a conduit à la disparition de Delphine.
Maître Mourad Batik, l'avocat de la famille de l'infirmière disparue, joint pour RTL par Thomas Proutot. Et puis voilà un chiffre qui en a surpris plus d'un ce matin. Un Français sur trois, 36% précisément, travaille aujourd'hui en horaire décalé. Très tôt le matin, la nuit ou le week-end, les femmes plus que les hommes, souvent peu qualifiées. Bonjour Martial Youx.
Bonjour.
C'est reconnu ces horaires atypiques? Est-ce que par exemple c'est pris en compte dans le calcul de nos retraites?
Oui, mais ça va être un peu la prochaine réforme des retraites et tout son enjeu souhaité par Emmanuel Macron qui va permettre de clarifier tout ça. On n'en connaît pas encore les contours sur cette nouvelle réforme. La pénibilité est censée être prise en compte pour éviter de devoir travailler jusqu'à 65 ans. Aujourd'hui, le travail de nuit fait déjà partie des critères de pénibilité. Donc si vous travaillez au moins une heure entre minuit et 5 heures du matin pendant 120 nuits par an minimum, donc quasiment 6 mois, hein, vous gagnez 4 points par an. Si vous êtes en 3-8 et que vous alternez des horaires en journée ou de nuit, là aussi vous gagnez 4 points. Un point, ça vaut 375 euros. Donc c'est mis sur un compte pénibilité. Au bout de quelques années, vous utilisez votre capital accumulé, soit pour suivre une formation qui va vous servir à sortir de ces horaires difficiles, soit pour passer à mi-temps ou à 80%, mais en gardant votre salaire, soit en partant un peu plus tôt à la retraite. On y arrive. Bon, le système, il faut bien le dire, est quand même très difficile à suivre pour celles et ceux qui sont en horaire décalé précisément, qui sont souvent en CDD, en temps partiel et qui ne savent pas très bien comment est géré ce fameux compte pénibilité aujourd'hui.
C'est l'employeur qui met sur ce compte pénibilité.
Oui, mais bien souvent, vous avez dans cette population-là des femmes particulièrement qui apprennent la veille pour le lendemain qu'elles vont travailler et qui ne savent pas exactement où sont situés tous ces papiers-là.
Horaire décalé, c'est uniquement entre minuit et 5 heures du matin ?
Non, vous avez plusieurs critères. Soit c'est minuit, 5 heures du matin, soit c'est après à 20 heures, soit c'est de 5 heures à 7 heures. Ce sont les trois critères.
Merci beaucoup, Martial. Toute petite info pratique, vous avez peut-être des problèmes.
Vous n'avez pas parlé de football et des buts de Benzema hier soir. Karim Benzema qui a marqué deux buts.
Pour expliquer ce que c'est qu'une panenka déjà.
Qui lui est en horaire décalé, bien sûr, Karim Benzema.
On va le plaindre.
Mais bien sûr, demi-finale de la Ligue des Champions.
Mais il ne faut pas le plaindre.
Non.
Non, parce que là, vous allez vous attirer.
C'était le match aller 4-3 pour Manchester City.
Voilà, et un match retour. Alors, il y a aussi des problèmes de ralentissement sur Internet depuis ce matin, des coupures aussi qui touchent plusieurs grandes villes, nous dit-on. Il pourrait s'agir d'un ministère de l'économie, d'actes de vandalisme. Des tuyaux de fibre optique ont été sectionnés. On enquête.
Vous avez peut-être vu le film Bac Nord, la réalité, c'est Hugo Hamelin, ce document exceptionnel d'RTL que vous avez sans doute entendu ce matin, on en parle dans une seconde.
RTL Midi. RTL Midi. Avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Arrête-toi, discute. Individu en fuite.
Tu serais qui, toi? Tu serais pas ton, ton insigne? Tu serais quoi? Tu serais rien.
C'est un film dont on a beaucoup, beaucoup parlé, critiqué par certains, récupéré politiquement par d'autres. 18 mois après la sortie de Bac Nord, RTL a pu rencontrer, et pour la première fois, un policier, membre de cette brigade mythique de Marseille. Tommy, c'est comme ça que nous l'appellerons, est confronté tous les jours à cette guerre des stupes dans les cités. En octobre dernier, lui et ses coéquipiers ont même été visés par des tirs de Kalachnikov, événement rarissime, mais les interpellations qui dégénèrent en revanche font presque partie du quotidien. C'est un document rare et exclusif signé Hugo Hamelin.
Ça arrive assez fréquemment, on va dire. On le sent de suite que quand ça va dégénérer, on voit les gens autour, leur comportement. On sent que d'ici quelques minutes, tout va partir en vrille. Nous, on essaie de rester le plus calme possible, faire en sorte déjà qu'on ne nous vole pas les interpellés ou qu'ils ne partent pas en courant, tout en essayant de s'extirper de la cité, ce qui des fois est très très compliqué.
C'est quoi? C'est des jets de projectiles? C'est des gens qui vous menacent?
Jets de projectiles, des gens qui viennent autour de la voiture, qui essaient des fois d'ouvrir les portières. Ils nous mettent des barricades. Des fois, on arrive par un endroit, on ne peut plus en ressortir. Parce qu'ils ont remis des barricades, ils ont remis des caddies, des parpaings. Plus les hauteurs, parce que les gens qui n'ont rien à voir avec l'interpellation sont dans leur balcon et ils nous jettent des projectiles. Par exemple, des oignons qu'ils ont mis dans les congélateurs, c'est fait exprès. Des œufs aussi dans des congélos, en fait, ça, donc du coup ça durcit et puis au moment de l'impact, ça fait très très mal. Tous les gens risquent notre vie, mais bon, si on le fait pas, qui c'est qui va le faire?
Il y a encore une autre étape supérieure qui a été passée au mois d'octobre. À la rentrée, il y a un équipage de la BAC qui a été pris pour cible par des tirs d'armes à feu.
À Bricard. C'était encore mon équipage. On a été pris de court, en fait. On ne s'y attendait pas du tout. Et à la sortie de l'immeuble, on s'est fait tirer dessus. Du coup, on s'est couché au sol et on a fait en sorte de se sauver, quoi. Ça fait drôle, hein. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Ils n'ont pas conscience de s'ils tirent et ils nous tirent dessus avec une Kalachnikov. Ils n'ont pas conscience qu'ils peuvent tuer, quoi. On voit beaucoup de films, beaucoup de séries. Ça les fait rêver d'avoir une arme entre les mains et puis d'un coup de se dire je vais tirer sur la police. Marseille, c'est hors norme. Surtout sur les quartiers nord, c'est hors norme. Toute la journée, on va voir des gens sans casque, en cross. Bien que ça diminue les cross. Les gens, ils appellent, ils voient des gens sortir avec des armes à feu. Des gens qui tirent en l'air aussi. C'est un autre monde. C'est plus que structuré, oui. C'est à la tête des réseaux, il y a des gens très intelligents, c'est une organisation énorme. Moi, je pense que dans les années 90, on n'a pas vu venir, on ne pensait pas que ça allait être monté autant en puissance. La consommation, elle est énorme, et de tout niveau, de toute classe sociale, c'est impressionnant. On peut croiser des gens de 80 ans comme des gamins de 14 ans. Donc je pense qu'on n'a pas vu venir cette montée en puissance. Et là, je pense que ça nous dépasse un peu, même si le gouvernement met en place beaucoup de choses. Mais bon, c'est tellement énorme.
Vous gardez votre sens de l'humour, vous gardez votre amour de la ville, votre amour des habitants. Comment on fait quand on vit ce que vous vivez au quotidien, quoi?
Ah, faut tout prendre au second degré, hein. Parce que sinon, ça vous bouffe, hein. Et ensuite, vous finissez par avoir le mal de partout. C'est ça le problème. Et le problème, c'est qu'après, ça empâtit sur votre vie familiale, votre vie personnelle. Donc, il faut tout prendre au second degré. Et à force, avec les années, en fait, on relativise tout.
C'est-à-dire que vous assistez à des situations qui sont un peu dramatiques et vous prenez du recul, quoi.
Vraiment dramatique, des fois. Sur des enfants, par exemple. Sur des morts. Des fois, vous voyez vraiment la misère. Si vous prenez pas du recul et si vous prenez pas ça avec humour, les images vont tout le temps vous revenir dans la tête et vous allez rentrer chez vous et vous allez pas être bien ou comme là, quand on se fait tirer dessus. Au début, oui, il y a l'adrénaline, c'est ce qui permet de rester lucide. Mais ensuite, quand les jours passent, vous dites merde, j'ai quand même failli y passer et vous ressassez et en fait voilà, faut tout prendre avec humour et relativiser, c'est le plus important. Sinon, franchement, on ne s'en sort pas.
Bonjour Hugo Hamelin.
Bonjour.
C'est vous qui avez recueilli ce témoignage. Quel âge a Tommy et quel est son parcours?
Alors Tommy, il a 38 ans. Il est fidèle à l'image du baqueux de Marseille que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'il est sportif, souriant, lunettes de soleil, habillé en civil avec le petit accent du Sud. Il est à la BAC Nord depuis 7 ans maintenant. Il était avant à la BAC du 91 en Essonne. Et il ne regrette pas la région parisienne d'ailleurs, où il me disait qu'il y avait plus d'agressivité qu'à Marseille. Moins de contact avec la population. Donc voilà, il préfère être ici avec les petits dealers marseillais.
Et qu'est-ce qu'il faudrait, selon lui, pour régler tous ces problèmes ?
Alors, la BAC aujourd'hui, c'est une unité d'élite. C'était pas le cas il y a 20 ans. C'est la première ligne de défense du gouvernement face au trafic de stupéfiants, qui est la mère de toutes les batailles. Vous l'avez entendu par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc, l'intendance suit. Ça veut dire qu'il y a des voitures modernes, il y a un armement lourd avec pistolets mitrailleurs, gilets pare-balles. 60 policiers de la BAC Nord aujourd'hui. Selon Tommy, il en faudrait 80 pour mieux couvrir les quartiers nord. Et puis, il me dit aussi que la police ne peut pas tout régler. Hein. Il en parle du contexte miséreux. On vient de l'entendre. Il va falloir un vrai travail de fond, d'éducation, de social, d'emploi, de rénovation urbaine aussi pour désenclaver les cités. Et tout ça, ça va être long, mais ça va être nécessaire si on veut vraiment enrayer le recrutement des réseaux de trafiquants qui repoussent constamment.
Et BAC Nord, le film, lui, il en a pensé quoi ?
Alors bien sûr, voir son job romancé au cinéma, porté par de grands acteurs, ça flatte l'ego. La plupart des baqueux de Marseille ont apprécié le film. Ils y ont vu certains points communs avec leur vie, mais ils font bien la distinction entre la fiction et la réalité. Contrairement au film, par exemple, il n'y a aucun chef qui va leur reprocher d'exploser une voiture en intervention. Contrairement au film, il n'y a aucun dealer qui va les empêcher d'entrer dans un quartier. Il n'y a pas de quartier interdit. À Marseille, même la Castellane, qui est le plus protégée, on va dire, eh ben, les policiers de là-bas qui y interviennent régulièrement, ils saisissent de la drogue régulièrement. Et puis, dernière chose, la relation policier-indique, qui est viciée dans le film, parce que les fonctionnaires payent leurs informateurs avec des barrettes de volés aux trafiquants lors de perquisitions sauvages. C'est d'ailleurs cette pratique qui a lancé la véritable affaire judiciaire de la BAC Nord. Et bien cette relation elle s'est assainie au fil des années. Maintenant il y a un fichier national des sources policières et puis les indics sont payés par virement bancaire.
Et justement, il y a 12 anciens membres de cette BAC Nord qui vont être jugés en appel en septembre, poursuivis pour détournement de saisie. C'est d'ailleurs cette affaire qui avait servi de point de départ au film.
Oui, avec un parti pris qui avait fait bondir les avocats des parties civiles, puisque le réalisateur Cédric Jiménez prend vraiment le parti des policiers, que la procédure dans le film n'a rien à voir avec la procédure réelle. On a quand même eu 18 policiers qui ont été mis en examen et jugés en première instance, avec ce système de saisie parallèle assez généralisé sur plusieurs années. Alors cette unité, après avoir été dissoute, elle a été complètement renouvelée depuis 2012. Elle est surveillée de près par la hiérarchie policière. Désormais, aucun agent aujourd'hui de la BAC Nord n'a été impliqué dans cette affaire, en tout cas à cette époque. Et puis, dernière petite anecdote, quand les locaux de la BAC Nord ont été rénovés, après l'affaire judiciaire, eh ben on a interdit aux architectes de mettre des faux plafonds, parce que c'est là que les policiers incriminés cachaient leur barrette de shit.
Merci Hugo Hamelin pour la force de ce témoignage instructif et saisissant. Dans une seconde, notre deuxième sujet, la Russie qui coupe le gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Faut-il s'inquiéter ici en France? Quelles conséquences? À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Le groupe national gazier polonais vient d'être informé qu'à partir de ce mercredi, l'approvisionnement en gaz russe est désormais suspendu.
La Russie a donc finalement mis ses menaces à exécution. Elle coupe le gaz à la Pologne. On vient d'entendre la ministre de l'Environnement polonaise, mais aussi à la Bulgarie. Quid des autres pays européens? Faut-il s'inquiéter? Quelles conséquences ici en France? C'est le deuxième débat de RTL Midi avec nous Martial You, chef du service économie de RTL, et Julien Fautra du service étranger. Peut-être un petit rappel d'abord, messieurs. La France n'est pas le pays qui consomme le plus de gaz russe.
Bah non, j'ai un petit graphique sous les yeux. On voit que la Finlande, par exemple, 94%. Et pour prendre les deux pays dont on parlait, la Bulgarie et la Pologne, la Bulgarie, c'est 75% du gaz russe. La Pologne, 55%. La France, selon les chiffres, on est entre 17 et 22%. Donc on est bien loin de ces niveaux-là, en tout cas.
Bon, et la présidente de l'Union européenne s'est voulue plutôt rassurante ce matin. Elle dit qu'on va pouvoir s'en passer.
Oui, nous sommes préparés à ce scénario. Nous élaborons notre réponse européenne coordonnée. Voilà ce que Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a écrit sur Twitter. Pourtant, la Russie comble 40% tout de même, 40% des besoins de l'Union européenne en gaz, c'est énorme. D'ici à octobre, pour trouver des façons de contourner cela, un nouveau gazoduc reliera la Norvège à la Pologne, en passant par le Danemark et la Suède. Vous voyez que c'est très compliqué. Il va y avoir un autre pays, la Bulgarie par exemple. Un pipeline va être renforcé entre la Bulgarie et la Grèce pour du gaz qui vient d'Azerbaïdjan. Vous voyez que ce sont des systèmes qui sont très compliqués et on essaie de trouver des montages comme ça.
Bon, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? Donc on ne va pas manquer de gaz. gaz, Martial ?
Non.
Ah, ça, voilà. Mais ça peut avoir des conséquences, notamment sur le prix du carburant ?
Oui, ça en a déjà, hein, en réalité. Vous vous souvenez qu'hier midi, j'étais face à vous, je vous disais, le baril de Brent est à 102 euros en ce moment. Bah, 24 heures plus tard, on est autour de 106 euros le baril. Et ça, c'est clairement lié aux incertitudes et à l'action de la Russie au cours des dernières heures, tout simplement parce que le cours du pétrole est indexé sur celui du gaz. Donc si le gaz augmente, le pétrole augmente et de toute façon, il y a cette incertitude qui finit par peser sur le prix du carburant à la pompe. J'ai regardé, la semaine dernière, on avait déjà pris 6 centimes. On continue à augmenter sur le site carbu.com ce matin. On est plutôt, donc on était à 1,87 sur le gazole la semaine dernière. On est autour d'1,90 en ce moment. Dans des villes comme Bordeaux, comme Paris évidemment, comme dans toutes les grandes cités françaises. Et cette hausse-là, petit à petit, elle est en train finalement de tuer le geste du gouvernement. C'est-à-dire que si on prend 6 centimes toutes les semaines, dans 3 semaines, on a absorbé littéralement les 18 centimes qui sont la ristourne du gouvernement maintenant.
Est-ce qu'il y a certains secteurs de notre économie qui sont plus sensibles au gaz russe que d'autres ?
Oui, alors ça c'est vrai. C'est-à-dire que certes, on n'importe que 17% de gaz russe à peu près en France, mais il y a des secteurs industriels qui sont directement reliés au gaz russe. Je pense aux aciéries, on en avait parlé. C'était un risque de rupture d'activité. Vous avez l'horticulture qui chauffe ses serres avec du gaz russe. Vous avez également la chimie, la pétrochimie et puis le séchage de la pâte à papier. Tout ça, ce sont des industries qui historiquement se sont tournées vers les Russes pour pouvoir avoir une activité. Et on observe que beaucoup d'industriels ces dernières années avaient justement fait jouer la concurrence et s'étaient tournés vers l'approvisionnement russe qui aujourd'hui leur pose problème évidemment face aux prix qui sont en train d'augmenter.
Mais alors du coup ces industriels là, si jamais on coupait le gaz russe, eux ils pourraient plus travailler ou il y aurait un plan B ?
Non, c'est-à-dire qu'on a commencé déjà, c'est ce qu'expliquait Julien, à chercher des voies d'accès, des itinéraires bis.
Et eux pourraient en profiter.
Et ils vont en profiter évidemment. Et puis il y a aussi le gaz liquéfié qui arrive des États-Unis ou d'Algérie qui est en train également là de prendre le relais.
Julien, on a beaucoup dit que le gaz russe servait à financer cette guerre. Est-ce que la Russie peut se passer de tout l'argent qui vient du gaz qu'elle vend à l'Europe ?
Alors là, je m'appuie sur des chiffres russes, donc il faut les prendre évidemment avec des pincettes, mais je voudrais vous répondre non. A priori, c'est impossible. La Russie exporte 150 milliards de mètres cubes de gaz et sur ces 150, il y a 140 qui passent par les pipelines, par des tuyaux en fait. Et donc ces tuyaux, ils ont un début et ils ont une fin. Donc un tuyau qui arrive en Allemagne, il ne peut pas arriver ailleurs dans le monde. Donc en réalité, l'Europe est nécessaire pour la Russie en termes d'économie pour ses exportations de gaz.
Et puis il y avait des calculs qui avaient été faits par des organismes européens au tout début du conflit qui disaient que la guerre coûtait sans doute 320 millions par jour à Vladimir Poutine et qu'on lui achetait pour à peu près 260 millions de gaz et de pétrole et de matières premières chaque jour, nous les Européens. Donc quelque part, on finançait sa guerre.
À moins que la Russie ait des accords secrets avec la Chine ou avec d'autres de ses voisins.
Martial Liu du service économique et Julien Fautra du service étranger. Merci à vous. Les auditeurs pourront évidemment intervenir sur ce sujet. Ils vont dans un instant parler de la BAC, les policiers, notamment leur quotidien. A tout de suite. RTL Midi.